Avec David Abiker.
Lucie Robquin, journaliste aux Échos, Marc Lambron de l'Académie française, sont avec nous. Nos esprits libres du mardi, avec une exception pour Marc qui vient aujourd'hui, parce qu'il ne sera pas là demain. Il nous dira pourquoi dans quelques minutes. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Hervé Gattegno en a parlé dans sa revue de presse. C'est pas un détail. Anne Hidalgo ferme son compte Twitter personnel. Des personnalités comme des institutions ont quitté Twitter. Que vous inspire cette désaffection?
Dans le fond, je pense qu'elle a raison. Twitter est un propagateur de haine. Il ne fait pas son travail pour modérer les contenus. On a même vu son patron, Elon Musk, retweeter récemment un message antisémite. C'était le 15 novembre, c'était il n'y a pas très longtemps. C'est donc pas aberrant de quitter Twitter. Et d'autres personnalités l'ont fait avant Anne Hidalgo. On se souvient de l'ex-patron de Danone, Emmanuel Faber, qui avait quitté le réseau social il y a exactement un an pour protester déjà contre Elon Musk. Alors, Quel yaourt, c'est ça. Ce qui peut paraître un peu étrange dans le cas d'Anne Hidalgo, c'est qu'il y a une dimension personnelle. Elle a été extrêmement attaquée ces dernières semaines sur deux cas particuliers. D'abord sur son voyage de 3 semaines à Tahiti. Ensuite sur les critiques qu'elle a faites sur les transports parisiens qui ne seraient pas prêts pour les Jeux Olympiques. Propos catastrophiques pour l'image de la France. Voilà, on ajoutera à cela que Anne Hidalgo n'a pas toujours eu un usage totalement honnête de Twitter. On se souvient que justement, alors qu'elle était à l'autre bout du monde à Tahiti, elle avait tweeté une image d'elle circulant dans les rues de Paris à vélo pour faire croire qu'elle était à Paris. Donc voilà, il faut aussi savoir balayer devant sa porte.
Marc Lambron, la maire de Paris qui quitte Twitter, est-ce que c'est la décélération? La politique regrette d'avoir amplifié, accéléré le buzz en commentant tout à chaque heure sur ce réseau social?
Elle quitte Twitter, mais on pourrait se demander d'abord pourquoi elle y est allée. Parce que idéalement, Twitter, ça devrait être entre La Rochefoucauld et Andy Warhol, c'est-à-dire La Rochefoucauld pour la brièveté des textes qui portent à la maxime. Tradition française, Champfort, Jules Renard, et Andy Warhol, parce que c'est le quart d'heure de célébrité, mais qui peut être dupliqué ou répliqué comme une sorte de d'agence France Presse intime, finalement.
On pouvait ajouter les haïkus japonais.
Absolument, on peut faire des haïkus, on peut faire des toutes sortes de choses, des calligrammes. Bon, alors, elle met en accord, semble-t-il, ses convictions et sa pratique. Si elle est suivie par ses desservants, ça veut dire que la gauche traditionnelle, ou ce qu'il en reste, va déserter Twitter. Et alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester des faussaires, des complotistes, des climato-sceptiques, toutes sortes de gens bas de plafond qui feront de ce réseau un Jurassic Park de la pensée.
Ça deviendra une réserve, en fait.
Une espèce de
ghetto idéologique.
Un ghetto idéologique où on penserait très bas.
Une question à Lucie Robquin, qui est une question économique. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est tout un secteur. TikTok, Meta, Instagram. Imaginons que tout cela s'arrête, qu'on les ferme. Économiquement, quel est l'impact?
Mais c'est fantastique pour les journaux. Moi, je le souhaite. Non, c'est...
Nul. Les réseaux sociaux s'arrêtent aujourd'hui économiquement. L'impact est nul. Ça met quelques milliers de personnes au chômage, mais c'est pas la sidérurgie.
Non, tout à fait. Ce n'est pas très
au chômage.
Oui, les influenceurs, on les regrettera.
Ce n'est pas très générateur d'emplois, donc ce serait plutôt une bonne chose d'un point de vue économique.
Après l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction au tabac, Lucie, vous attirez notre attention sur la lutte contre le tabagisme, la politique de lutte contre le tabagisme du gouvernement, qui va augmenter en janvier le prix du tabac et malgré une politique de hausse constante des prix, les Français fument.
Mais oui, on touche aux limites de la stratégie française, c'est-à-dire que les prix du tabac sont extrêmement élevés en France, et néanmoins, les Français fument plutôt plus qu'ailleurs en Europe. En 5 ans, le paquet de cigarettes a augmenté de 8 euros, il va encore augmenter de 50 centimes, c'est considérable. Ces hausses, elles ne font plus baisser le tabagisme, ça montre qu'au-delà d'un certain niveau de taxe, la hausse de la fiscalité est contre-productive. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça n'améliore plus la santé des Français. En revanche, ça favorise énormément la contrebande, elle a augmenté de 60% en un an. On a même découvert des usines clandestine en France, enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant. Deux leçons à tout ça. La première, vous la connaissez, c'est que trop d'impôts tuent l'impôt, ça marche aussi pour le tabac. Et la deuxième chose, c'est que la France n'a aucun intérêt à légiférer seule si l'Europe ne suit pas, puisque ça favorise finalement les pays voisins. C'est un problème qui a été mis en avant depuis très longtemps par la France. Bruxelles commence à le prendre en compte. Ils ont promis d'aligner la fiscalité du tabac à l'échelle européenne. Ils ont promis aussi de mieux contrôler le commerce transfrontalier. Mais comme d'habitude en Europe, bah, ça prend un temps fou.
Alors, ce qui accompagne cette augmentation du prix de la cigarette, c'est l'éloignement progressif du fumeur de l'espace public. Et ça vous concerne au premier chef, Marc Lambron, parce que vous êtes fumeur et parfois je vous accompagne dans ce vice. Qu'inspire au fumeur que vous êtes et impénitent cet éloignement des fumeurs, ce bannissement.
Ça m'inspire qu'à l'époque des tontons flingueurs et même après, on fumait dans les avions, dans les trains, dans les cinémas, dans les restaurants.
Est-ce qu'on regrette ?
Dans les bureaux, je ne sais pas si on le regrette, mais en tout cas la toxicité est réduite dans l'espace. Ça m'inspire aussi une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que l'État remplit ses caisses avec les taxes sur le tabac, mais la protection sociale, évidemment, on supporte le coût avec les pathologies induites. Donc l'État pénalise ce qu'il n'interdit pas, il joue un peu au pompier pyromane. Bon, après, je vois bien qu'il y a toutes sortes de mesures. Il paraît que le prix du paquet a triplé en 20 ans. Alors, on veut maintenant interdire les filtres, parce que ça, voilà, c'est promouvoir les substituts, ça existe, les patchs, la gomme, ou les cigarettes même électriques jetables. Mais je crois que, qu'est-ce qui peut expliquer cette permanence de la toxicité française ? Alors, il y a trois types de tabagisme. Il y a un tabagisme mimétique, l'adolescence, la cour de récréation. Il y a un tabagisme de détresse, il y a une corrélation forte avec les zones où le RSA est distribué. Et il y a, peut-être le nôtre, mon cher Abiker, un tabagisme d'exutoire, c'est-à-dire que pour les gens assez rationnels ou assez gouvernés, la part d'irrationnel, voire la part maudite, se canalise vers une addiction légale, parce que ça excite et en même temps ça calme les nerfs. Donc, à suivre pour nous.
Vous vous en moquez, vous fumez, vous êtes immortel.
Je suis immortel avec une restriction pulmonaire possible.
Bon. Lucie Robquin, dans l'encadrement des libertés, notamment la liberté de louer au prix que l'on souhaite, il y a le durcissement des règles qui visent à la location de courte durée. C'est évidemment Airbnb qui est visé, qui est dans le collimateur du législateur. Succès qui a un effet pervers d'Airbnb, c'est de faire flamber les loyers et contribuer à la pénurie de logements. Que vous inspire cette réglementation supplémentaire à l'approche des Jeux Olympiques?
Mais c'est ça, c'est un sujet d'autant plus brûlant que les Français ont de plus en plus de mal à se loger et qu'avec les Jeux Olympiques, la pratique va croître de manière exponentielle. Le cœur du problème, c'est qu'il est beaucoup plus rentable de louer son logement à des touristes qu'à des étudiants ou de jeunes ménages. Et là, il est encore question de fiscalité. Vous allez croire que c'est une obsession, mais ce n'est pas le cas du tout. Quand vous louez un logement à des touristes, vous avez un abattement de 71%. Quand vous louez à quelqu'un d'autre, c'est 30%. C'est quand même une différence notable. L'idée donc de cette proposition de loi qui est examinée aujourd'hui, c'est donc d'aligner la fiscalité de tous les logements loués autour de 40%. L'idée, c'est aussi de donner aux maires le moyen de limiter le nombre de logements Airbnb dans leur commune. On sait que certaines villes s'y sont essayées, notamment Saint-Malo, qui a imposé des quotas récemment. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas imposer de sanctions parce qu'elles sont attaquées constamment en justice. Il serait donc question de sécuriser le cadre juridique pour que ces quotas puissent être réellement appliqués.
Est-ce qu'on ne fait pas porter à Airbnb les faiblesses de notre politique en matière de construction de logements, d'accès au logement, et on cherche ses clés dans la lumière du projecteur et on s'en prend à ceux qui font un peu de gratte avec Airbnb?
Oui, puis j'ai l'impression que le lobby hôtelier n'est pas mécontent de ces restrictions. C'est quand même intéressant parce que la police étatique s'étend maintenant à la politique domiciliaire en quelque sorte. On n'est plus tout à fait maître chez soi. En même temps, on voit bien que les Jeux Olympiques, ce qui est rare est cher. Je ne vous parle pas. C'est pas une comparaison peut-être pertinente du prix, par exemple, des concerts de rock à Paris aujourd'hui. Là aussi, il y a des inflations locales qui vont avec le monde moderne et qui se font au détriment de certains.
Vous parlez d'un excès de réglementation. Il faut savoir quand même que New York, qui est le temple du libéralisme, a rendu les locations de courte durée quasiment impossibles. On n'a plus le droit de louer si on n'est pas dans l'appartement. On n'a plus le droit de louer à plus de deux personnes. Et depuis, les locations Airbnb ont chuté, 70% en un mois, c'est considérable. Donc c'est quand même quelque chose qui se fait ailleurs.
Et je peux vous dire qu'à New York, si vous avez un squatteur ex-locataire qui reste chez vous sans payer son loyer pendant des mois et des mois, il est mieux protégé qu'en France. J'ai un cas
en
tête.
On sent qu'il y a du vécu.
Il y a du vécu, je ne suis pas propriétaire à New York, mais je connais quelqu'un qui est proprio à New York et je dois vous dire qu'il a beaucoup de mal à virer les deux salariés qui restent chez lui et qui ne payent pas leur loyer depuis plusieurs années. Je ferme la parenthèse et je m'adresse à Marc Lambron, qui, s'il est ici aujourd'hui et pas demain en compagnie de Routel Krief, c'est parce que demain vous parlerez à l'occasion des obsèques de Gérard Collomb. Marc Lambron, c'était votre ami. Je vais pas vous demander ce que vous allez dire demain sur le personnage, sur l'ancien maire de Lyon, mais je voudrais savoir pourquoi vous étiez ami.
On était amis parce que je pense qu'il y avait quelques points communs, le lycée du Parc, le fait d'avoir passé une agrégation, le fait d'être des enfants de la République, et puis le charme très particulier qui était celui de Gérard Collomb.
Parce que vous êtes lyonnais, hein.
Ben, personne n'est parfait. Vous êtes bien lyonnais, comme on dit dans Marius, Monsieur Brun. Donc je suis du parti de Monsieur Brun. Et ben Collomb, il avait très bien compris ce que c'est que Lyon, qu'on ne sait pas forcément à l'extérieur. Bon, Albert Thibaudet disait dans La République des professeurs, si Paris est la capitale de la France, Lyon est la capitale de la province. Bon, eh bien la capitale de la province, elle compte jusqu'à deux, parce qu'il y a deux cours d'eau, il y a deux collines, Fourvière et la Croix-Rousse, et au fond il y a deux spiritualités, la spiritualité catholique missionnaire et la spiritualité des sociétés de pensée, dirons-nous. À Lyon, il vaut mieux être...
C'est un euphémisme, ça.
Disons, comme on dit certains, qu'à Lyon, il vaut mieux être aux premières loges pour faire de la politique. Mais en même temps, c'est une ville de soierie. Et on sait qu'il ne faut pas trop déchirer l'étoffe, y compris l'étoffe du corps social. Et en cela, on voit bien pourquoi d'ailleurs Collomb a été en quelque sorte un préfigurateur du en même temps. C'est-à-dire, il faut compter jusqu'à deux, il faut en effet ménager ou essayer de ménager une sorte de concorde, et en même temps, je le dis rapidement, mais c'est une grande ville d'invention. À Montgolfier, Jouffroy d'Aban, Jacquard, Ampère, les Frères Lumière, Charles Mérieux, Marius Berlier. Donc, une ville d'industrie est aussi une ville où on sait, il y a déjà du ruissellement, si vous voulez, de la théorie du ruissellement, et on sait bien que faire de la prospérité, c'est aussi une garantie de redistribution. Et en cela, sur ces deux plans, le en même temps et en quelque sorte une forme de ruissellement, on voit bien pourquoi Emmanuel Macron et Gérard Collomb se sont entendus.
Marc Lambron, tout en pudeur, ne répond pas à ma question. Pourquoi vous aimiez-vous avec Gérard Collomb ?
Parce que nous aimions le cervelas, le tablier de sapeur et la cervelle de canut. Je vous donne une réponse culinaire et gastronomique, c'est-à-dire lyonnaise.
Une pirouette à la Lambron et nous nous quittons avec un extrait du concerto pour piano numéro 5 de Beethoven. Il fut créé un 28 novembre 1811. Lucie et Marc, merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine.
À bientôt. Merci.